Conférence Corée du Sud du 13 au 15 octobre 2023. La manifestation de la vie éternelle, message 1. Vous avez tous probablement une copie du résumé, n'est-ce pas? Peut-être que je ne l'utiliserai pas, mais c'est égal. Avant de continuer, je veux vous rafraîchir la mémoire au sujet du plan et du dessein de Dieu. Parce que la plupart des chrétiens sont conscients uniquement du salut. Le salut est très simple. Dans Éphésiens 2, il est dit que ce n'est pas par les œuvres, pas parce que tu as travaillé, mais c'est le don de Dieu. Tu l'as juste reçu. Hein, n'est-ce pas, frère Sang? Si quelqu'un te donne un cadeau, est-ce que tu dois le payer? Est-ce que tu dois faire quelque chose pour le recevoir? Non. Tu dois juste le recevoir. Le salut nous a été donné par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et c'est libre. C'est un don gratuit. Tu ne dois rien faire. Tu dois juste l'accepter. C'est très simple. Et personne ne peut payer pour ce salut. Non. Qui peut payer toutes tes dettes et tous les péchés que tu as commis depuis ton enfance jusqu'à présent, BJ? Est-ce que tu as déjà compté tes péchés? Je n'ai pas assez de doigts. Qu'en est-il si je te prête mes mains? Je te donne mes deux mains, alors tu as 20 doigts. Non, nous avons commis tant de péchés et d'injustices, plus qu'une grande montagne ici à Chuchan. N'est-ce pas? Ainsi, qui peut payer pour tes péchés? Et qui est d'accord de payer pour eux? Le psalmiste dit, personne, personne. Même toi-même, tu ne peux pas te racheter. Ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de Dieu notre Père. Et il est le seul qui soit qualifié, parce qu'il est le seul sans péché. Alors même si quelqu'un voulait mourir pour toi, frère Park, personne n'est qualifié. Ah, il faut que je parle plus fort. J'oublie toujours, je vais utiliser ce micro. C'est bon. Je dois utiliser les deux micros. Même si quelqu'un voulait mourir pour tes péchés, personne n'est qualifié, à part... Ah, parce que lui-même est pécheur. Ainsi, personne ne peut. Seul notre Seigneur Jésus-Christ est qualifié pour payer ce prix, parce qu'il est le seul sans péché. Paul a écrit dans 2 Corinthiens qu'il est le seul à être juste. C'est le seul qui est juste qui peut mourir pour les injustes. Personne ne pouvait payer ce prix. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus est venu, Jean-Baptiste dit : Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas seulement le tien, mais le péché du monde entier. C'est ce que 1 Jean 2 dit. Vous avez tous lu 1 Jean 2. Le Seigneur n'est pas seulement la propitiation pour mes péchés et tes péchés, mais il est écrit au verset 3, je crois, qu'il est la propitiation pour les péchés du monde entier. C'est verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le salut n'est pas simple, non. Quelqu'un a payé la rançon. Seul Dieu lui-même, dans le Fils Jésus-Christ, qui est devenu un homme, peut devenir ton offrande pour le péché. C'est un agneau sans défaut, parfait, sans péché. Il était un homme comme toi et moi, mais Hébreu dit, mais il était sans péché, il n'a pas péché. Louez le Seigneur pour un salut si merveilleux. Mais c'est gratuit, c'est gratuit, il est pour toi. Est-ce que ça suffit? Vous m'entendez? Non? Pas assez bien. Il a un problème de micro. Ce n'est que le début de ta vie chrétienne. Beaucoup de personnes disent parle d'être né de nouveau. Frère Sang, quand es-tu né en tant qu'homme? Quand, il y a combien d'années? Est-ce que ça suffit d'être né en tant qu'homme? Non. Tu dois grandir. Tu dois beaucoup apprendre, n'est-ce pas? Tu es allé à l'école combien d'années? Longtemps. Tu es allé à l'école primaire, à l'école secondaire, puis tu as dû travailler. Et maintenant, tu as ta propre entreprise. Est-ce que tu t'es arrêté lorsque tu étais un enfant? Non. Cela veut dire, même après être né, tu as beaucoup à apprendre en tant qu'homme. Qu'en est-il de naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que ça suffit de juste être né? Est-ce que ça suffit? Dans la vie humaine, cela prend tant de temps pour atteindre ce que tu es maintenant. N'est-ce pas? Je pense que chacun de nous peut en témoigner. Nous pensons que notre vie chrétienne, c'est plus simple. J'ai été chrétien depuis 80 ans. Je suis née dans une famille chrétienne. Bon, peut-être Si j'enlève 5 ans, les premières 5 années, j'ai en tout cas été chrétien depuis 75 ans. Vous savez, cher saint, je suis encore en train d'apprendre. Pour mûrir spirituellement est bien plus difficile que de mûrir en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Est-ce que spirituellement tu es déjà mûr? Combien d'années depuis que tu es chrétien? Plus de 10 ans, non, plus de 20 ans. Alors, combien de temps encore as-tu besoin pour être mûr? Peut-être qu'ici je suis le plus âgé. J'ai encore beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Même l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, quand je lisais Philippiens 3, je disais « Quoi ?» Parce que Paul disait « Je n'ai pas encore atteint le but. » Et je ne suis pas encore parfait. Je disais « Quoi ? Paul, tu es un tel apôtre ? Et tu me dis que tu n'es pas encore parfait et que tu n'as pas encore atteint le but ?» John, depuis combien de temps es-tu chrétien? 50 ans? Au moins? Oui. Est-ce que tu es déjà mûr? Non. C'est juste. Mais Paul dit... je m'élance en avant. Je cours. Il voulait encore saisir Christ. Si lui, en tant que ce grand apôtre choisi par le Seigneur, et celui qui a écrit Philippiens, dit qu'il n'est pas encore pleinement mûr, qu'en est-il de nous tous dans cette pièce? Peut-être que Myung-Tsung est déjà mûr? Vous voyez, elle rigole. Parce qu'elle sait qu'elle ne l'est pas. Je ne le suis pas. Tant que je suis vivant, je dois me porter en avant. Il y a tant à apprendre, tant à apprendre. Qu'en est-il de Jérémie le prophète? C'était un grand prophète. Ésaïe, Jérémie, Zacharie, tous les prophètes. Le Seigneur a dit à Jérémie, « Invoque-moi, invoque mon nom » au chapitre 33. Et je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. Est-ce que tu sais déjà tout? Peut-être que Jenny sait tout. Non. Aucun de nous ne peut dire qu'il sait tout. Imagine que le Seigneur revienne demain ou la semaine prochaine ou peut-être au début de l'année prochaine. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Il faut te poser la question. Imagine que le Seigneur revienne et que tu dois être devant le tribunal de Christ. On parlait des impôts. Imagine que le temps vienne pour donner ta feuille d'impôt. La question est, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as tout rempli correctement? Sinon, ils reviendront vers toi, n'est-ce pas? Et si tu as fait quelque chose de faux, peut-être pas intentionnellement, mais tu dois quand même payer le prix, n'est-ce pas? C'est ton expérience, tu nous racontais. Combien est-ce que tu dois au Seigneur? La parole de Dieu dit que lorsque le Seigneur revient, on devra rendre compte de comment nous avons vécu sur cette terre aujourd'hui, dans notre corps. Comment est-ce que tu vis? Obéissant au Seigneur en toutes choses, pur, saint et juste. Chuchang, tu ne me regardes pas. C'est sérieux. Chacun content, le Seigneur revient. Oui, bien sûr, il revient. Mais la question est, es-tu prêt? Si tu ne l'es pas, tu peux aussi dire au Seigneur, reviens pas tout de suite. Mais imagine que le Seigneur retarde sa venue de quelques années. Qu'est-ce que tu vas faire pour être prêt, Biji? Comment est-ce que tu vas te préparer? Je pense que même si le Seigneur nous donnait encore 2 ans, je ne suis pas sûre même que nous apprécierions ces 2 années de plus pour sérieusement nous préparer pour son retour. Il se peut que tu continues à vivre comme tu vis maintenant. Et le Seigneur revient vraiment bientôt. Vous savez, tous les apôtres, même le Seigneur lui-même, dans Apocalypse, au chapitre 22, il dit, regardez, je viens lentement. Est-ce qu'il a dit cela? Non. Je viens. Non. Qu'a-t-il dit? Je viens vite. Est-ce que tu le crois? Spécialement maintenant, tu as intérêt à le croire. L'Apocalypse a été écrit il y a à peu près 2000 ans par l'apôtre Jean. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, le Seigneur a déjà averti, je viens bientôt, je viens rapidement. Bien sûr, tu pourrais argumenter et dire, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Oui, ok. Ainsi maintenant. C'est combien d'années après que le Seigneur soit venu la première fois? 2000. 2000 ans. Ça veut dire 2 jours. Est-ce que tu penses que le Seigneur va encore attendre 1000 ans Non. Non, certainement pas. Si nous comptions selon les mathématiques de Dieu, c'est maintenant le début du troisième jour, comme quand le Seigneur est revenu ressuscité le troisième jour. Et depuis Adam jusqu'à maintenant, c'est 6000 ans. Et le royaume du monde, c'est le septième mille ans. C'est encore 1000 ans de plus. Ça fait 7000 ans. Ne pensez pas que le Seigneur ne se préoccupe pas des chiffres. Dans Genèse 1, lorsqu'il rénovait la terre, c'est en combien de jours? 6 jours. Et qu'est-il arrivé le septième jour? Il s'est reposé, c'est le sabbat. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cela? Est-ce que vous ne pensez pas que le Seigneur, le premier jour, aurait pu dire qu'il y ait la lumière, le soleil, les étoiles? Alors il n'aurait pas eu besoin du quatrième jour. Le Seigneur n'avait besoin que de parler et ça s'est passé. Imagine que tu sois deux et que tu aies cette puissance. Est-ce que tu attendrais le sixième jour pour faire l'homme? Je n'ai pas cette patience. Si j'avais cette puissance, j'aurais dit que tout soit là. Pourquoi le Seigneur a-t-il employé 6 jours? Et l'homme est créé à la fin du sixième jour. Et si tu lis attentivement, tu vois que 6, c'est le chiffre d'un homme. Et cet homme terrible qui viendra a comme chiffre 666. Pourquoi pas 777 ou 999? Pourquoi 666? Dis-moi. Et c'est une bête méchante et terrible. Il est appelé la bête. Ainsi, le chiffre 6 a un sens précis. Ainsi, quel nombre, quel chiffre es-tu en tant qu'homme? Tu es 6. Pourquoi? Parce qu'à la fin du sixième jour, Dieu a fait l'homme selon son image, à son image. Mais malheureusement, l'homme est tombé. Alors es-tu un homme parfait? Un homme juste? Un homme saint? Ou un homme pécheur? La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, un nombre chiffre, 6, ça suffit, n'est-ce pas? Qu'en est-il si ton chiffre est 66? Qu'en est-il si ton chiffre à toi, David, c'est 666? Ainsi, tu dois réaliser que les chiffres dans la Bible sont très significatifs. Par exemple, le chiffre 40, c'est un chiffre de tribulation. Le peuple d'Israël a erré dans le désert pendant 40 ans. Moïse était sur la montagne de Sinaï avec le Seigneur pendant 40 jours. Mais le peuple en bas de la montagne, dans la vallée, ils n'ont pas pu attendre. Pendant 40 jours, ils n'ont pas pu attendre. Et pourquoi pensez-vous que le Seigneur ait été conduit dans le désert pour 40 jours pour être tenté? Pourquoi 40 est si important? Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je veux vous laisser comprendre que les chiffres sont très importants. Pourquoi le Seigneur a séparé 1000 ans pour le millénium? Pourquoi 1000? Frère Park, pourquoi pas juste 10 ans? Ou 500 ans? Pourquoi 1000? Dieu a donné à l'humanité 6000 ans pour régner. Et ils en ont fait un grand chaos. Maintenant, ça suffit. Dieu dit, c'est mon tour. Il va venir et établir son royaume des 1000 ans. Maintenant, ma question à chacun de nous, y compris moi, c'est lorsque le royaume des 1000 ans descend sur cette terre, es-tu qualifié pour participer à ce royaume? Es-tu prêt pour cela? Ça, c'est la question. Es-tu prêt? Ne pense pas que tous les croyants recevront le royaume quand le Seigneur reviendra. Je vais vous ramener à Apocalypse 1, verset 6. À la fin du verset 5, il y a celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le but final de Dieu en nous sauvant et en nous donnant son amour pour devenir ses enfants, c'est que nous soyons des rois et des sacrificateurs pour Dieu et pour Christ. Ça, c'est le but. Ainsi, quel est le but de ta vie chrétienne? Quel est ton but en tant que chrétien? Et toi? Quel est ton but? Aller au ciel? Le but, c'est d'être un roi et un sacrificateur pour Dieu et pour Christ. Un roi et un sacrificateur. Le chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est le but de Dieu pour chacun de nous. Alors maintenant, quel est ton dessein, ton but en tant que chrétien? Frère Park. Dans le ciel? Tout le monde veut aller dans le ciel. Dans le royaume, lorsque le Seigneur vient et amène son royaume sur cette terre, il n'aura pas besoin d'ingénieur. Il n'a pas besoin d'homme d'affaires. Il n'a pas besoin de beaucoup d'enseignants pour enseigner l'anglais dans le royaume des mille ans. Il n'a pas besoin de qui que ce soit qui joue de la percussion. Il n'a pas besoin d'architectes. Il n'a pas besoin d'experts informatiques comme Chuchang. De quoi a-t-il besoin? De quoi Dieu a besoin dans son royaume des mille ans? Qu'est-ce que tu vas être dans le royaume des mille ans? Pourquoi est-ce que tu te prépares pour le royaume des mille ans? Tu vas être un roi et un sacrificateur. Un roi pour régner sur les nations et un sacrificateur pour servir Dieu. Être un sacrificateur est un service particulier pour Dieu. Un roi et un sacrificateur. Veux-tu être un roi? Imagine que Dieu te dise, frère Park, à commencer par demain, tu vas régner sur la Corée du Sud. Est-ce que tu serais très heureux? Alléluia! C'est facile? Tu penses que c'est facile? Laissez-moi vous avertir tous. Vous et moi, nous ne pouvons même pas régner sur nous-mêmes. Yuchang, est-ce que tu règnes sur toi-même, sur ta chair, sur ta pensée, sur tes émotions, tes sentiments? Qu'en est-il de toi? Je m'entraîne. Ça, c'est une bonne réponse. Et qui t'enseigne? Le Seigneur Jésus. Ne pensez pas que ce soit facile. Si vous ne pouvez même pas régner sur votre moi, votre chair, votre orgueil, sur vos habitudes, tu ne peux même pas régner sur ta colère. Comment peux-tu régner sur les nations? Pensez-y. Avant de pouvoir régner sur les nations, il faut être entraîné par le Saint-Esprit, par l'onction qui nous conduit dans toute la vérité pour régner sur nous-mêmes d'abord. Régner sur ta famille, de la bonne manière. Hein? Tu ne dois pas être un dictateur. Mais par Christ. Ne pense pas que ce soit simple. Nous n'avons pas de séminaire théologique pour enseigner les gens à être des rois. En Corée, Où peux-tu aller pour être entraîné en tant que roi pour le royaume des mille ans? Dans quelle école puis-je m'inscrire? Ô Seigneur, ô Seigneur, qui a dit ô Seigneur? Est-ce qu'on a une école à Fountain Valley? Non. Alors où vas-tu apprendre? Dans la ville du Dieu vivant, à Sion, par l'onction qui habite en nous, que nous avons reçue. C'est ce que nous allons voir en particulier dans 1 Jean au chapitre 2. Je dis cela, non pas comme une doctrine ou un enseignement, mais je le dis à moi-même, à chacun de nous. Je parle ainsi, non parce que j'ai déjà atteint ou que je suis déjà parfait, certainement pas. Mais nous devons tous être entraînés. Parce que si je ne peux pas régner sur mon moi, sur ma chair, sur mes pensées, sur mes désirs, je ne peux pas régner. Alors, comment est-ce que je pourrais régner sur les nations lorsque le temps viendra? Si le Seigneur dit, ok, règne sur la Corée du Nord, je dirais, oh non Seigneur, non. Est-ce que tu voudrais régner sur la Corée du Nord? Non, je ne veux pas. Tu veux pas. C'est si difficile. Il faut apprendre à être fort en esprit, à être un avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous nous battons contre les principautés et les puissances. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un entraînement parce qu'il nous influence. Il nous influence. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, tout le monde dit, on bâtit l'Église. Au chapitre 1, 2, 3, oui. D'accord, vous êtes l'Église. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez des messages, vous chantez des chants? C'est pourquoi nous devons apprendre à combattre ce combat spirituel, non contre la chair et le sang, mais contre ses principautés et ses esprits méchants. C'est pourquoi il faut revêtir toute l'armure de Dieu. Est-ce que vous faites cela chaque jour, vous revêtir de l'armure entière? Tu ne peux pas aller au combat en ayant juste une veste. Il faut une armure spirituelle pour combattre ce combat. C'est un entraînement. Ne pensez pas que ce soit facile. Nous essayons de faire rendre cela simple pour tant de chrétiens, parce que sinon ils diront « Oh, c'est trop difficile, je m'en vais, je ne suis pas d'accord. » Tu travailles dans une compagnie en tant qu'architecte. Imagine que tu n'es pas d'accord avec le chef. Et tu n'es pas d'accord avec les règlements de la compagnie. Et tu n'es pas d'accord avec tes collaborateurs. Est-ce que tu penses que tu vas rester dans cette place très longtemps? Non. Tu vas être licencié avant d'avoir commencé. ce n'est pas facile. Ça, c'est la situation parmi nous chrétiens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord avec moi. Et il n'est pas d'accord avec lui. Aucun de nous n'est d'accord avec les autres. Et chacun fait sa propre œuvre. Vous pensez que c'est ainsi que Dieu travaille? Que Dieu œuvre? Dieu nous a donné sa parole vivante, magnifique. Apprenez à obéir à la parole. Certaines personnes peuvent dire, tu parles de garder le commandement. Ça fait partie de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Lis à nouveau la Bible. Relis la Bible. J'en dis que celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Dieu, garde ses commandements. Est-ce que tu gardes les commandements? La parole du Seigneur? Il dit, c'est si difficile. Est-ce que c'est facile? Non. Mais pourquoi Jean dit-il, et ses commandements ne sont pas pénibles? Ils ne sont pas quoi? Pénibles. Est-ce que c'est si difficile? Si compliqué de garder sa parole? Qu'en est-il d'un commandement simple? Tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Dans le Nouveau Testament, le commandement de Dieu est même plus élevé. Si tu hais ton frère, tu l'as tué dans ton cœur. Tu diras, je n'ai jamais tué personne. Oh si! Est-ce que tu n'as jamais haï personne dans ton cœur? Dans l'Ancienne Alliance, il est dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais le Seigneur dit, dans Matthieu 5, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Et le Seigneur dit une parole très sérieuse, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Quelqu'un est venu au Seigneur Jésus et lui a demandé, quel est le plus grand commandement? Qu'a répondu le Seigneur? Le plus grand de tous les commandements. Il n'y en a que 10, n'est-ce pas? Si le Seigneur te donne 100 commandements, tu lui diras, Seigneur, c'est trop difficile. Mais qu'en est-il de 20? Oh, c'est encore trop dur. Mais qu'en est-il de 10? Le premier commandement, le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu un petit peu. Tu aimeras ton Dieu, point. Non? Qu'est-ce qu'il a dit? De tout ton cœur. Maintenant, frère Sang, aimes-tu Dieu? Oui. Bien sûr, oui. Tu ne détestes pas Dieu. Non, tu l'aimes. Personne ne dira non, je n'aime pas Dieu. Tu aimes Dieu? Oui. J'aime Dieu. De tout ton cœur? Ah, c'est difficile de répondre à cette question. Pour moi aussi, c'est difficile de répondre. Qu'en est-il de toute ton âme? Puis de toute ta pensée? À quoi penses-tu toute la journée? Beaucoup d'autres choses. Comme le chant qu'on a chanté, nous avons été détournés par beaucoup de choses. Qu'en est-il de toi, Bijay? Je ne peux pas dire que je suis bien meilleure. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Elsa sourit. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? De toute ton âme et de toute ta pensée, et même de toute ta force? Si tu dis ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, ça veut dire que le Seigneur est encore dans l'Ancien Testament? Ainsi, on doit être réaliste. On doit être réaliste. En fait, il n'y a pas une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Du temps des apôtres, est-ce qu'ils avaient une Bible comme toi? Non. Les épîtres de Paul n'étaient pas encore écrites. Puis il a écrit dans 2 Timothée 3:16 que toute l'écriture elle est profitable pour enseigner, pour t'entraîner, pour rendre l'homme de Dieu parfait. Il parle de quelle écriture? Du Nouveau Testament? Non? David. Nous l'appelons l'Ancien Testament. Mais le Seigneur l'a appelé les Saintes Écritures. Et le Seigneur a si souvent cité les Écritures. Et dans le livre de Luc, chapitre 24, il dit à ses disciples, toute l'Écriture, en commençant par les psaumes, les prophètes parlent de moi. Mais on dit qu'on n'a pas besoin de cela, alors ça veut dire qu'on peut rejeter le Seigneur Jésus. On a parlé du livre des psaumes pendant des années. Je crois 3 ans. Non, 5 ans. Nous avons parcouru chaque psaume. Ils sont si riches concernant Christ. Il y en a 150. C'est vraiment surprenant. Il parle tellement de Christ. Les psaumes ne sont pas là pour te réconforter, mais ils parlent de Christ. Le Seigneur dit, il parle de moi. Qu'en est-il du sacerdoce? Dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu veut faire de toi un sacrificateur. Un roi, c'est pour régner, mais un sacrificateur, il est là pour servir Dieu. C'est un service très particulier. Lis les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, la tribu de Lévi était une tribu très particulière. Parce qu'ils sont sans compromis. Ils se sont mis du côté de Dieu. Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi la tribu de Lévi pour être sacrificateur? Au début, tous devaient être sacrificateurs. Comment ça se fait que ça s'est réduit à la tribu de Lévi? Pourquoi? Ils ont été fidèles, mais fidèles à quoi? Ils se sont mis du côté du Seigneur. Tous adoraient le veau d'or. Si tu avais été là, qu'aurais-tu fait? Tu aurais suivi la foule. Ne dis pas non. Si nous avions été là, nous aurions juste suivi la foule. Ne l'aurais-tu pas fait? Tous le font. Est-ce que tu veux être différent? Tout le monde te regardera. Oh, Chu Chang est bizarre. Lorsque Moïse est descendu, il a tiré une ligne. Il a dit que ceux qui sont du côté de Dieu viennent ici. De quel côté te tiens-tu? Ce n'est pas facile d'être différent. Ne sois pas différent simplement pour être différent. Nous devons nous tenir du côté de Dieu, du côté de la vérité, ce que Dieu dit. Ou as-tu un autre choix? Tout autre choix en dehors de la révélation de Dieu dans la parole n'est pas un choix. Ce n'est pas facile de prendre position. Mais c'est la première qualification des Lévites. Ainsi, à l'origine, Dieu voulait un royaume de sacrificateurs. Un royaume. Un royaume sacerdotal. Un sacerdoce royal. Les autres tribus, les 11 autres tribus n'ont pas été fidèles à Dieu. Seule la tribu de Lévi s'est mise du côté de Dieu. Où veux-tu te placer? Du côté de Dieu. C'est très bien. Très bien. Tiens-toi du côté de Dieu. Et son côté, c'est sa parole vivante. Je sais que ce n'est pas facile. Suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. Regarde le Seigneur Jésus quand il était sur terre. Combien l'ont suivi ? Tu n'as que 10 doigts. Mais c'est presque assez. Ils étaient 11. Ne compte pas Judas. Est-ce que c'est beaucoup? Quand le Seigneur parle de le manger dans Jean 6, tout le monde est parti. Imagine que ce soir je vous dise il faut me manger. Tu peux juste partir, la porte n'est pas très loin de toi. Mais le Seigneur a dit, celui qui me mange vivra par moi. Ma chair est la véritable nourriture et mon sang est le véritable breuvage. À la fin, ne sont restés que les 12 avec le Seigneur Jésus. Ainsi, être un avec la volonté de Dieu, parce que sa parole le dit, ce n'est pas facile. Pensez-vous que le Seigneur y passait un bon moment quand il était sur cette terre? Qu'est-ce que tu penses, John? Est-ce que tu l'aurais suivi? Ou aurais-tu plutôt suivi les souverains sacrificateurs, les scribes et les pharisiens? C'est ton choix. Ou tu dis, oh, je suis John. Non, tu suis le Seigneur. Dans l'Apocalypse, il est parlé de ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Servir Dieu en tant que sacrificateur est très particulier. Tu as le privilège d'entrer dans le Saint des Saints et même dans le lieu saint. Aujourd'hui, la porte est ouverte, mais n'oublie pas, tu as besoin de tous les types de l'Ancien Testament et même dans Hébreu, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par année le jour des expiations. C'est ce qu'Hébreu 9 dit, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu peux entrer, mais tu dois être un sacrificateur. Pas seulement par le sang précieux, mais il faut une conscience pure. Il faut que ton cœur soit purifié d'une mauvaise conscience et ton corps lavé d'une eau pure, d'une eau vivante. Puis, il faut revêtir Christ, ce vêtement saint. N'oublie pas cela. Alors tu peux entrer dans le lieu saint. Et que fais-tu là? Il faut manger les pains de proposition. C'est une nourriture particulière pour les sacrificateurs. Et tu dois remplir les lampes avec de l'huile d'or pour avoir la lumière de la vie. Tu ne peux pas servir dans les ténèbres. John, lorsque tu es dans ta chambre et qu'il fait sombre, que fais-tu? S'il fait nuit, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de la lumière de la vie. Puis, tu dois brûler de l'encens. Alors, tu peux même entrer dans le Saint des Saints, devant le trône de Christ. Alors tu peux recevoir la parole du Seigneur et ses instructions. Ça, ce sont les privilèges d'un sacrificateur. Si nous entrons dans les détails de toutes ces choses, nous verrons. Ce n'est pas si simple d'être un sacrificateur, mais le Seigneur veut faire de toi un roi et un sacrificateur. Quelles sont les qualifications? Alors, comment est-ce que le Seigneur va nous perfectionner? Nous avons vu cela particulièrement, non pas seulement particulièrement, mais dans les premières épîtres de Jean. C'est pourquoi nous avons le fardeau d'entrer dans 1 Jean. Mais il faut avoir le but en vue, n'est-ce pas? Lorsque tu es allé à l'université pour étudier, au tout début, avais-tu un but? Quel était ton but? Oh, tu n'es pas décidé. La deuxième année, tu n'es toujours pas décidé. Et la troisième année, peut-être, si tu es ainsi. Je ne sais pas ce que tu vas recevoir comme diplôme. Tu vas à l'université avec un but. Alors, tu peux être perfectionné. Notre vie chrétienne, si on veut comprendre la Bible, il faut ce but. Parce que Dieu est un Dieu qui a un but. La Bible ne parle pas seulement du salut, mais du perfectionnement, de la transformation. Pour nous qualifier pour être des rois et des sacrificateurs. Le salut n'est que par la foi en Jésus-Christ. Mais pour être qualifié pour entrer dans le royaume, c'est en étant un vainqueur, en ayant la maturité spirituelle, la perfection. Il y a tant de qualifications. Il faut suivre l'agneau partout où il va. Être une vierge pure. Sans péché, qu'en est-il de cela? Est-ce que c'est facile? Non. Il faut être mûr. Apprendre de nouvelles choses. Parce qu'il chantait un nouveau chant dans Apocalypse 14. Et il faut être debout à la montagne de Sion. Et il faut que son nom et le nom du Seigneur Jésus soient écrits sur notre front. Et il est même dit, mon nouveau nom. Connais-tu le nouveau nom de Jésus? Savais-tu qu'il a un nom nouveau? Quel est son nom? Tu peux me dire, son nom, c'est Jésus. Oui, mais il a un nouveau nom. Et qu'est-ce que c'est? Combien connais-tu le Seigneur? Ça veut dire que notre expérience de Christ doit être nouvelle chaque jour, chaque mois, chaque année. Tu apprends de nouvelles choses en tant qu'architecte, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que tu sais déjà tout au sujet de l'architecture? Tu sais tout au sujet du Seigneur Jésus? Tu connais son vieux nom? Son ancien nom? Qu'en est-il de son nouveau nom? Ainsi, tu dois entrer dans la parole pour expérimenter la nouveauté, la richesse de Christ. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 19, son nom est la parole de Dieu. Quelle parole? La Bible est si épaisse. Combien connais-tu la parole de Dieu? Plus tu entres dans la parole et plus tu y obéis, tu n'es pas seulement un lecteur ou quelqu'un qui écoute, mais tu fais. Plus tu réaliseras que le Seigneur est si nouveau, si frais, si riche. Dans les 60 dernières années, j'ai connu de très bons chrétiens, mais ils n'ont pas voulu continuer. Ils ne pouvaient pas apprendre de nouvelles choses. Ils sont coincés dans leur tradition. Regarde les Juifs, ils sont restés prisonniers. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, ils n'ont pas pu continuer. Regarde tant de dénominations, ils sont coincés. Ce n'est pas une critique, c'est la réalité. Ils n'ont pas moyen d'avancer. C'est pourquoi un sacrificateur doit expérimenter Christ chaque jour d'une manière nouvelle et découvrir de nouvelles choses dans la parole de Dieu. Avec cet arrière-plan, nous pouvons entrer dans 1 Jean. La parole de vie. Avec un but. Je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que beaucoup d'entre vous ont voyagé depuis si loin. Amen. Il faut voir quel est notre but. Et nous avons besoin de toute l'écriture pour atteindre le but. Amen. Louez le Seigneur.